Alors, avant de me présenter, en fait, ce soir, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Petite histoire, c'est moi qui ai écrit. Hein, mais... il était une fois dans la campagne angevine, une famille qui grandit, évolue, avec notamment le petit dernier qui vient faire un sacré ramdam dans cette famille. Le quotidien familial est compliqué, bouleversé, agité. La scolarité est désordonnée, parasitée. Les parents sont quelque peu déboussolés, dépassés, perdus. L'aîné, bah, lui aussi, l'a un peu perdu, mis de côté, à côté de ce petit qui, voilà, qui fait du bruit, qui prend de la place. Ben, un jour, cette famille va rencontrer une psychologue qui dira aux parents « Mais peut-être qu'il serait intéressant de se pencher sur la question du TDAH. » Alors là, ok, le quoi, c'est quoi, il se passe quoi, enfin voilà, de quoi on parle, ça veut dire quoi en fait le TDAH avec toutes les questions qui vont avec, c'est ben, comment on fait, comment il va grandir, et l'école, et son frère, bref. Un mélange de questions, d'émotions, un tourbillon en fait qui va embarquer cette famille dans un virage que va prendre leur vie, j'ai envie de dire. Quelques années plus tard, cet enfant va mieux, cette famille va mieux, chacun a retrouvé sa place. Le TDAH, il est toujours là, mais chacun a appris à faire avec, à le comprendre, à l'apprivoiser, à le détester parfois, mais à le remercier aussi. Parce que malgré ce trouble, finalement, ce petit garçon, eh ben, il est extraordinaire, il est pétillant, il est bruyant, il est distrait, mais il est curieux, persévérant et vraiment très, très courageux. Alors, vous l'aurez compris peut-être, mais en tout cas, venir aux 3 mois ce soir parler du TDAH, ça a une connotation toute particulière pour moi, qui habite dans la campagne angevine. Parce que je peux vous en parler aujourd'hui quelques années plus tard. Voilà. Donc je viens avec un peu d'émotion, avec la question de bah, à quel endroit je vais me situer. Est-ce que je vais parler de ma place de maman? Est-ce que je vais parler de ma place de professionnelle qui accompagne aujourd'hui des familles? Ou est-ce que peut-être bah, ce sera un mix des deux? Voilà, donc je vais faire avec ça. Et donc comme le disait Nicolas, parce que quand même il s'agit que je me présente un petit peu, donc je m'appelle Émilie Amon, je suis en effet de formation initiale éducatrice spécialisée et puis intervenante systémique, ça veut dire que je travaille avec les familles dans leur ensemble, à travailler autour de la relation, de la communication, de l'histoire familiale, etc. pour améliorer en tout cas les relations, apporter du changement quand il y a un problème qui est rencontré dans une famille. Et donc en effet, à mes heures perdues ou gagnées, comme dirait un de mes collègues, je fais de la formation, j'accompagne aussi des équipes sur le terrain autour de l'analyse et la pratique professionnelle. Et puis, j'ai un cabinet sur Angers où j'accompagne des familles voilà, qui rencontrent à un moment donné une difficulté dans l'éducation, dans les relations avec leurs enfants. Parfois par la porte d'entrée de la parentalité, parfois c'est la famille complète, parfois on démarre par l'enfant. Mais vraiment, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est de ne pas juste accompagner un membre de la famille, mais bien la famille dans sa totalité. Et plus particulièrement pour le TDAH, parce que c'est bien loin de concerner juste l'enfant qui souffre de ce trouble. Alors, du coup, TDAH, peut-être on va commencer par regarder ce que c'est, parce que quand même on en entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas, parfois un peu à tort et à travers. Mais quand c'est quelque chose qui commence à émerger, ben voilà, on passe par là. Donc comme le disait Nicolas tout à l'heure, donc TDAH pour trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble en fait qui a commencé à émerger dans la littérature médicale à la fin du XVIIIe siècle. Je vous le dis parce que finalement, ça fait déjà un moment que ça commence à émerger. Mais ça a pris plein de formes. On a parlé d'inattention, après on a parlé d'inadaptation, après on a plutôt regardé ça du côté de la maladie mentale, et puis après plutôt du côté biologique. Enfin voilà, on a recherché en fait. fait, pour pouvoir arriver à là où on en est aujourd'hui et que peut-être dans 10 ans, on en sera à un autre endroit. Mais en tout cas, aujourd'hui, le TDAH fait partie des troubles du neurodéveloppement, tout comme les troubles 10, tout comme le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Voilà, le TDAH est classifié à cet endroit-là. Peut-être juste préciser ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement. Trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que c'est un trouble qui est du côté du retard à un moment donné, en tout cas, du retard dans le développement de l'enfant, qui peut être soit du côté du retard des acquisitions ou des apprentissages scolaires, qui a des répercussions dans tous les milieux de vie de l'enfant. Ça, c'est important parce que c'est pas juste une répercussion dans la famille, mais bien dans la famille, à l'école, au sport, sur les espaces de loisirs. Enfin, voilà, c'est vraiment dans tous les espaces de vie de l'enfant. Trouble neurodéveloppemental aussi parce que ça débute dans l'enfance. Voilà, on ne parle pas d'un trouble neurodéveloppemental quand ça développe à l'adulte. Il ne s'agit pas de ça. Et surtout quand il y a une impossibilité d'expliquer ce trouble par une autre raison. On verra sur le TDAH, il y a un ensemble de symptômes qu'on pourrait attribuer aussi à beaucoup d'autres choses finalement. Une agitation, ce n'est pas forcément un TDAH. Voilà. Il peut y avoir à un moment donné une situation qui est difficile, qui est dans la vie, dans l'histoire de l'enfant, qui amène comme symptôme de l'agitation. Voilà. Donc le TDAH, c'est vraiment quand on a exclu toutes les causes qu'un médecin peut poser un diagnostic. Alors, le TDAH, c'est une combinaison de symptômes. C'est à la fois de l'hyperactivité, mais de l'hyperactivité motrice, mais aussi de l'hyperactivité cérébrale. Enfin, ça ne se voit pas forcément. Une autre catégorie de symptômes autour de l'inattention et une autre catégorie de symptômes autour de l'impulsivité. Donc, on parle bien de TDAH quand il y a de l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Après, si on va plus dans le détail, il y a plusieurs formes évidemment de TDAH. Et il y a des enfants qui vont plutôt avoir une forme où l'inattention va prendre plus de place, d'autres enfants où c'est l'hyperactivité qui va prendre plus de place, et d'autres où ça va être l'impulsivité. Mais n'empêche qu'on retrouve quand même les trois types de symptômes, en tout cas les trois familles de symptômes. C'est un trouble qui finalement résulte d'une difficulté ou d'une impossibilité à se contrôler ou à ne pas se laisser distraire. Voilà, ça c'est vraiment un trouble qui parle à cet endroit-là. C'est comment c'est difficile, voire impossible parfois, de se contrôler, d'où la question de l'impulsivité. C'est-à-dire s'il y a du sans-filtre, ça sort. Et de faire abstraction de tous les distracteurs. Je vous ai emmené, j'ai juste imprimé une petite photo du cerveau parce que quand même le TDAH, il s'agit que, en tout cas, c'est un trouble, donc j'ai dit neurodéveloppemental, donc qui est au niveau neurologique. Et donc ça se situe dans cette petite zone là, en avant du cerveau. Je ne suis pas neuropsychologue, donc je ne vais pas me lancer dans des grands termes. Ça ne serait pas du tout approprié. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à cet endroit-là, c'est là où se traitent les émotions, se traitent les questions d'attention, de concentration, la question du contrôle, de l'impulsivité des comportements, la question de notre jugement, la question de notre organisation, de notre planification, de notre langage oral. Et il est vrai que le TDAH affecte quand même l'ensemble de ces éléments-là. Hop. Il y a des explications différentes sur le TDAH, d'où ça vient, c'est quoi les causes, est-ce que c'est héréditaire, génétique, etc. Là où on en est aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a à peu près 75% des enfants qui ont un TDAH où on peut parler d'hérédité. Non pas une transmission d'un gène responsable du TDAH, mais bien d'un ensemble de gènes et de facteurs qui font que quand même, quand il y a un TDAH dans une famille, potentiellement, dans les générations du dessus, un où les deux parents sont eux aussi concernés par le TDAH. Voilà, sachant que ça s'exprime de manière très différente chez les filles et chez les garçons, et que aujourd'hui, il y aurait quand même une prévalence de TDAH chez les garçons. Je dis bien aujourd'hui parce que je pense que dans quelques années, on en sera un petit peu ailleurs, puisque ce qui commence à émerger, c'est que le TDAH, c'est la petite fille, et donc chez la femme plus tard, il ne se manifeste pas de la même manière, il est moins bruyant, voilà, avec des symptômes qui sont un petit peu plus inhibés chez la fille que chez le garçon. Voilà. Pour l'instant, le constat, c'est qu'il n'y a plus chez les garçons, mais voilà. Est-ce que c'est qu'on le voit plus ? Ce qu'on observe chez un enfant qui a un TDAH, je dis bien un enfant parce que c'est des choses qu'on peut aussi observer chez les adultes, mais quand même, le constat est fait que chez les adultes, il y a aussi des manifestations qui sont un peu différentes, puisque quand même l'adulte va apprendre petit à petit, a appris petit à petit à composer aussi avec le trouble et à mettre en place des stratégies, par exemple, ou des éléments de contrôle, parce que dans la question du TDAH, il y a quelque chose qui est autour d'un défaut de maturation du cerveau, de cette partie-là, je dirais préfrontale, mais pardon si des non-psychologues écoutent, c'est pas tout à fait ça, qui met plus de temps en tout cas à maturer. Ça veut pas dire que ça va pas maturer jusqu'au bout comme les autres, mais en tout cas c'est plus long dans la maturation. Donc à l'âge adulte, il y a des éléments qui vont s'observer un petit peu différemment. Alors ce qu'on observe quand même, on va dire le plus fréquemment, c'est une difficulté à rester attentif de manière soutenue lors de certaines activités. Cependant, et c'est là où c'est difficile, c'est que on observe plutôt une fluctuation de l'attention. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un TDAH, il est capable tout à fait d'être concentré en fait. Mais si je compare par exemple avec un marathon, il va être capable d'être hyper concentré, faire un sprint, et puis finalement, toutes les capacités attentionnelles, elles seront épuisées, et après, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. Pour autant, il y a quand même une capacité de se concentrer, et encore plus, je dirais, sur des choses qui sont motivantes, qui ont du sens, qui ont de l'intérêt. Il peut même y avoir une capacité d'être de ce qu'on appelle dans un hyper-focus, c'est-à-dire d'être tellement concentré que plus rien autour n'existe. Par exemple, je prends l'exemple des écrans. On rencontre des parents où l'enfant a un diagnostic, hein, c'est officialisé, de TDAH, qui disent bah, « je comprends pas, il arrive à être concentré devant les écrans. Bah, il bouge pas, il est assis, etc. » Ben oui, c'est très juste, parce qu'en fait, là, l'enfant, il est, comme beaucoup d'enfants hein, d'ailleurs, mais encore plus un enfant qui a un TDAH, il peut être complètement happé par ce qui est en train de se passer dans l'écran, mais au point même où vous avez beau essayer de lui parler autant que vous voulez, en fait, vous n'existez plus. Et c'est là où il y a, je dirais, la différence avec un enfant qui n'a pas de TDAH, c'est qu'il peut être happé dans l'écran, mais quand même, autour, il y a encore des éléments qui existent. Ça peut aller jusqu'à en oublier de manger, de prendre soin de soi, etc. Quand on est plus grand, je pense aux ados, par exemple, autour des addictions aux écrans, ben voilà, il peut y avoir aussi quelque chose à cet endroit-là qui se joue. Donc une grande distractivité, c'est-à-dire que tout est sujet à se déconcentrer. Alors on dit souvent, c'est enfant, dès qu'il voit une mouche voler, ça y est, on l'a perdu. N'empêche qu'il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un élément qui distrait, l'attention elle part et puis elle navigue, je dirais, au gré des mouches qui passent. On observe une tendance quand même à éviter les activités qui demandent un effort mental soutenu. Voilà, ça c'est difficile de rester mobilisé, de donner de l'énergie, de soutenir, de faire une activité, de la mettre en place, de la maintenir jusqu'au bout et de la terminer. Il est observé que ce sont des enfants et des adultes qui parfois vont passer d'une activité à une autre, pof, commencent un truc, puis vont faire autre chose, et puis vont faire autre chose, et puis ils reviennent, etc. Donc il y en a qui ça pose problème, puis il y en a qui ça ne pose absolument pas problème, qui sont aussi capables de revenir, de refaire l'activité là où ils en étaient rendus, etc. etc. Une difficulté à prêter attention aux détails, Mais du côté du en tout cas de la scolarité, ça amène des fautes d'étourderie quand même assez importantes, avec des difficultés dans la scolarité, je dirais, autour des consignes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a plusieurs consignes, c'est quand même très compliqué. Une consigne à la fois, ça va. Une consigne complexe, plusieurs consignes en même temps, ça, c'est vraiment compliqué. Une difficulté à s'organiser. Voilà, ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ce trouble. Des oublis fréquents dans le quotidien. Je vais faire quelque chose et puis finalement, qu'est-ce que j'étais venue chercher déjà? Voilà, parce que l'attention, elle est partie ailleurs. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, sur le côté de l'inattention. Après, en fonction si c'est plutôt de l'hyperactivité ou pas, eh bien, on peut observer de l'agitation, de l'impulsivité. De l'impulsivité, j'ai envie de la caractériser du côté de l'absence d'inhibition, c'est-à-dire d'absence de filtre. Il y a quelque chose comme ça qui émerge, qui sort, qui fait que ben, ça peut être des enfants qui ont beaucoup de mal à attendre quand une conversation est en train de se faire, par exemple. Parce qu'ils ont leur idée et il faut absolument qu'elle sorte parce que sinon elle va disparaître et vont oublier. Ou qu'ils vont couper la parole parce que pouf, l'idée vient, pouf, ça sort. Mais en fait, dans la réalité, normalement, l'idée elle vient, on analyse, est-ce que c'est le moment? Ben non, il y a une conversation, il faut que j'attende, qu'il y ait du silence pour pouvoir parler, etc., etc. Un enfant qui a un TDAH, quand il n'a pas appris encore à faire ça, que ce n'est pas automatisé en fait, pouf, ça va sortir comme ça. Voilà. Il va avoir une réponse à l'école, il ne va pas lever la main, c'est trop tard. Pouf, ça y est, c'est déjà sorti. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre, mais le fonctionnement, il est plutôt comme ça d'origine. Donc après, ça, c'est travailler et accompagner pour que ça puisse s'automatiser. Des variations de l'humeur importantes, voilà. Une fluctuation de l'attention, on a dit, mais aussi une fluctuation des humeurs et des émotions. Avec ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'une vraie difficulté à pouvoir réguler les émotions. Là aussi, ça sort avec beaucoup d'impulsivité. Une difficulté à attendre, à faire preuve de patience, à prendre des décisions aussi, avec quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est tout à fait possible, tout d'un coup, sur un coup d'impulsivité, de quitter son travail, de faire ses valises, de partir, etc. Et en même temps, ben, à la fois de choisir un menu, qu'est-ce qu'on va boire, un café, un espresso, non, putain, on a mangé, j'en sais rien. Ben, allez-y, décidez avant, je vais prendre le temps de réfléchir. Ça, c'est vraiment, vraiment typique. C'est assez pénible pour les gens qui sont autour, mais voilà, ça fait partie du trouble. Et par rapport à en tout cas, à ce trouble-là, très souvent j'entends moi au cabinet des questions des parents qui ont des doutes. Vraiment, moi j'ai envie d'encourager à aller explorer parce que ça permet de sortir du doute déjà, et puis ça permet de mieux comprendre son enfant, parfois de mieux comprendre se comprendre soi-même par ricochet aussi, et ça n'empêche qu'il y a nécessité que ce soit diagnostiqué par un médecin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer j'ai un TDAH, on peut avoir des questions, on peut douter, mais vraiment, c'est un médecin qui diagnostique. Qui diagnostique parce que lui, il va passer par des examens, il va passer par des bilans psychologiques complets, avec des tests autour de l'attention, il va passer par un examen clinique, il va faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'il va écarter les autres éléments qui pourraient amener des biais et finalement être responsable, je sais pas, d'un problème d'attention. Par exemple, peut-être que l'enfant il a des problèmes d'audition et finalement on parle pas du tout de TDAH, mais que si on résout le problème d'audition, l'enfant il va pouvoir se concentrer. Voilà. Donc lui il va, c'est vraiment lui qui va poser ce diagnostic là. Ça n'empêche pas de pouvoir accompagner les enfants de toute façon et les parents. Et je regarde en même temps l'heure, en fait. Peut-être pour conclure, parce qu'on va avoir plein d'autres choses à se dire pendant le débat, et ça viendra aussi à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, le message que j'ai envie de passer ce soir, et qui me tient à cœur, mais qui me tient à cœur, vous l'aurez bien compris aussi de par mon histoire, c'est que le TDAH, ça existe vraiment, parce que parfois il y a des gens qui ont des doutes, oui c'est un problème de société, etc. Non, en fait c'est un trouble qui existe. Tous les problèmes de comportement des enfants, bien évidemment, ne s'expliquent pas que par le TDAH, puisqu'on est sur à peu près 5% de la population, enfants, j'entends, moins adultes, plutôt 3% en tant qu'adultes. Et j'aurais envie de pouvoir dire aux parents qui sont là ou qui nous écoutent, ben, de prendre aussi soin d'eux en tant que parents, parce que à partir du moment où il y a un trouble qui s'invite à la maison, qui peut-être à un moment donné peut devenir aussi du côté du handicap, ben finalement c'est une question qui est à la fois difficile pour l'enfant, à la fois difficile pour la famille et à la fois difficile pour soi en tant que parent ou soit en tant qu'individu, parce que ça peut aussi nous ramener nous à notre propre histoire, à notre propre relation à l'école, etc., etc. Voilà, donc voilà, ce serait ça mon petit message, quoi. Prendre soin de soi, des enfants, de la famille, mais voilà, de pouvoir élargir.